Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour grand jury, votre premier grand jury. Et pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, Yves Tréhard du Figaro.
Bonjour
Yves.
Bonjour.
Et Christophe Jacubizine de TF1.
Bonjour.
LCI. Bonjour Christophe. Fin de première partie dans notre rubrique La Question en Plus, c'est Jean Latizeau, président de l'association SOS Papa, qui vous interpellera, Marlène Schiappa. Et puis nous retrouverons en fin d'émission, comme d'habitude, Marie-Pierre Haddad pour Questions Nettes. Vos commentaires, vos questions, vos interpellations pour Marlène Schiappa, vous pouvez toujours réagir en direct. Hashtag Le Grand Jury. Alors Marlène Schiappa, vous n'avez pas rang de ministre et pourtant vous êtes l'un des membres du gouvernement les plus connus et les plus populaires. Et pas seulement en raison de vos dossiers qui font inlassablement la une de l'actualité. Cette semaine encore, avec la journée des droits des femmes, ce sera vendredi. Mais cette popularité est aussi sans aucun doute due à votre personnalité, vos positions parfois iconoclastes, vos coups de gueule qui impriment et vos coups de com' aussi qui dérangent, qui déconcertent. Au service de vos causes, mais également peut-être pour servir vos ambitions personnelles, c'est ce que certains pensent autour de vous, vos adversaires notamment. Votre agenda est donc bien garni et pourtant, Marlène Schiappa, vous avez trouvé le temps d'écrire. Vous publiez un nouveau livre qui paraît dans quelques jours, Une et Indivisible. C'est même votre quatrième ouvrage depuis que vous êtes au gouvernement. Un plaidoyer pour la défense des valeurs de la République qui sont, selon vous, en péril et vous apportez vos propositions pour renouer avec l'égalité, notamment, pourquoi pas, des statistiques ethniques, dites-vous, pour mesurer mieux encore les injustices liées à l'origine et la naissance. Nous en parlerons, bien sûr, dans cette émission. Vous y parlez aussi de laïcité et des menaces qui pèsent sur elle. Elle viendrait, dites-vous, du clientélisme politique. Faut-il, du coup, durcir la loi de 1905? Vous nous direz, bien sûr, ce que vous en pensez. Mais on commence par l'actualité, bien sûr. Gilets jaunes, acte 16, c'était hier. Yves Tréhard.
Oui, acte 16, c'était hier, mais le samedi 16 mars, eh bien, on sera un jour après la fin du grand débat national. Donc les Gilets jaunes et beaucoup d'autres, des partis politiques, des responsables politiques ont appelé à la mobilisation. Est-ce que vous redoutez cette journée du 16 mars ?
Marlène Schiappa.
Non, je crois que la question, elle ne doit pas se poser en termes de ce qu'on redoute ou de ce qu'on ne redoute pas. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas juger les événements avant qu'ils se produisent. Moi, j'observe qu'on est dans une période où on a de plus en plus les commentateurs, mais aussi les différents responsables politiques, un avis, une analyse sur les choses avant même qu'elles se produisent. Souvenez-vous, avant que les mesures d'urgence économique et sociale du président de la République soient annoncées, déjà, on avait des gens qui nous disaient « ça sera sûrement pas suffisant, ce sera sûrement pas des mesures efficaces ». Il les a annoncées. Ensuite, on nous a dit « le grand débat, il va laisser tout le monde indifférent, ça n'intéressera personne, personne va se rendre dans les réunions du grand débat ». On voit que c'est l'inverse qui s'est produit avec un intérêt très fort de l'ensemble des citoyens français pour le grand débat. Donc là, attendons de voir quelles sont les politiques publiques qui sont proposées en sortie du grand débat.
Il y aura encore des manifestations de rue, notamment le samedi, fortes.
Je crois que d'abord, ce qu'on observe, c'est que ces manifestations, elles s'étiolent. Et je pense que c'est important de le dire. Leur nombre, il est complètement décroissant. Ce n'est pas pour moi, c'est factuel. Si on regarde le nombre des manifestants, il est décroissant. Et donc, comme dans tout mouvement, il est décroissant, mais il reste les gens qui sont les plus radicaux et les plus violents. Et ça, je crois que tout le monde...
C'est tout ce qui reste pour vous, ce sont des radicaux et des violents dans les rues aujourd'hui.
Je n'ai pas interrogé les Gilets jaunes un par un, mais ceux qui restent, en tout cas, font preuve de davantage de violence. Les actes qui sont liés à la haine de l'autre en marge de ces manifestations, elles sont de plus en plus fortes.
Et est-ce que vous diriez, comme le chef de l'État, que ceux qui participent à des manifestations, quelque part, sont complices de ces gens plus radicaux?
Oui, mais je crois que le président de la République a eu pleinement raison de dire ça. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut nommer les choses et il faut dire ce qu'il est. Là, on avait au début un mouvement, les Gilets jaunes, qui protestaient contre la taxe carbone. La taxe carbone n'est plus. Ensuite, on avait un mouvement qui demandait des mesures de pouvoir d'achat. Il y a eu des mesures de pouvoir d'achat. Ensuite, on avait une demande de considération sociale et de participation démocratique. Il y a le grand débat. Là, je crois que maintenant, le temps, c'est l'écoute, la discussion, la co-construction avec le grand débat et ensuite des mesures
en sortie. Est-ce que vous demandez aux Gilets jaunes de ne plus manifester le samedi?
Moi, j'ai rien à demander à personne et particulièrement pas aux Gilets jaunes. Chacun est libre. Il y a un droit de manifester. Mais ce droit de manifester, il faut savoir l'exercer. Et l'exercer, ça veut dire l'exercer sans violence et peut-être aussi sans bloquer une partie de l'économie du pays, ce qui est fait actuellement.
Ce mouvement, c'est un peu l'échec de La République En Marche. Parce que dans La République En Marche, vous aviez la volonté, justement, d'être plus représentatif. de la société française. Or, c'est pas ce qui s'est produit.
Marlène Schiappa.
Moi, je ne mettrais pas les choses en parallèle comme cela, mais en tout cas, si nous avions, nous, au gouvernement, tout fait parfaitement, il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc, par la force des choses, oui, il faut avoir l'humilité de constater que c'est parce qu'il y a des choses que nous avons peut-être partiellement manqué ou des choses que nous avons fait pas assez vite, pas assez bien, pas assez immédiatement qu'il y a eu ce mouvement.
Mais il y a une responsabilité du président de la République lui-même ou pas, puisque c'est lui qui est ciblé, qui est toujours visé par ces manifestants. Est-ce qu'il n'a pas été suffisamment à l'écoute?
Je pense que là, ce qu'on observe, et moi vous savez que depuis le début du mouvement, j'ai rencontré vraiment beaucoup de Gilets jaunes, et ils sont assez nombreux à m'avoir dit qu'ils avaient voté pour Emmanuel Macron.
Et quand je leur disais,
justement, et quand je leur disais, mais alors pourquoi vous vous mobilisez maintenant? Pourquoi pas il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, puisque la situation était déjà difficile? Ils me disaient parce que là, on avait un espoir incroyable. On s'est dit, ce président va tout changer très rapidement. Et on voit qu'en fait, on paye maintenant des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans d'inaction, de promesses politiques non tenues, qui se cristallisent et qui émerge maintenant dans ce moment parce que l'attente de changement elle est très grande.
Et à la fin du mouvement, vous allez tenir justement les engagements du président, vous allez répondre à toutes ces demandes, on voit plus d'un million et demi de contributions sur le site internet. Comment vous allez faire pour ne pas être déceptif?
Alors d'abord, il y a des gens qui forcément seront satisfaits par les mesures, il y a des gens qui ne le seront pas, puisque vous avez vu qu'il y a des demandes qui sont assez antagonistes, y compris au mouvement des Gilets jaunes, au sein du mouvement lui-même. Beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'ils demandent et sur les sorties.
Donc vous dites aux gens, vous serez sans doute déçus d'une certaine manière.
Non, je ne leur dis pas ça. Je dis que chaque personne individuellement, c'est obligé. Chaque Français ne se retrouvera pas dans la totalité des mesures, puisqu'il y a des demandes qui sont antagonistes et il y a des gens qui sont opposés. Et il faut que les mesures qui sortent, elles satisfassent à la demande, mais qu'elles soient aussi en cohérence avec le projet qui est sorti de l'élection présidentielle, puis des élections législatives, c'est le projet d'Emmanuel Macron.
Alors, justement, il y a des propositions qui émergent dans ce débat. Nous allons, Marlène Schiappa, en égrener 5. C'est le moment de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Pour ou contre, Marlène Schiappa, l'indexation des retraites sur l'inflation?
Alors, c'est un exercice extrêmement difficile parce que je ne peux pas vous dire pour ou contre. Ça dépend énormément de contexte, d'abord, d'énormément de paramètres autour. Je suis plutôt favorable à faire en sorte que les retraités puissent vivre plus dignement. Je pense que c'était une bonne mesure de faire en sorte que la CSG notamment ne soit pas augmentée pour les petites retraites. Et je pense qu'il doit y avoir une préoccupation et une attention portée aux personnes retraitées très forte. Et c'est ce que fait Jean-Paul Delevoye dans les travaux qu'il est en train de mener.
C'était quand même un engagement un peu historique depuis la guerre que les pensions suivent l'inflation. Or là, 0,3%. C'est beaucoup moins que l'inflation. Donc chaque année, les retraités perdent du pouvoir d'achat.
Désolée, mais de façon générale, sur les pour ou contre, vous savez très bien que si je vous dis pour ou contre telle ou telle mesure, ça va être perçu comme une annonce du gouvernement de sortie du grand débat. Je suis extrêmement respectueuse du fait que les consultations doivent se poursuivre et que donc je ne vais pas, moi, préjuger
de ce qui va sortir. Le
président
de la République vous a invité aussi à faire vos propres propositions et à nourrir le débat.
Oui, je ne me suis pas privée, hein, ça ne vous aura pas échappé.
Mais là en l'occurrence, vous ne prenez pas position. Alors continuons, légalisation du cannabis, Marlène Schiappa.
Contre, tout à fait contre.
L'allongement du congé paternité.
Pour.
Limiter le salaire des élus et hauts fonctionnaires à 5 SMIC.
Pour la limitation des rémunérations des élus, mais pourquoi 5 SMIC et pas 4 ou 6? Je pense que dans les détails, ça mérite un petit débat.
Et enfin, rétablir l'ISF. Contre le rétablissement de l'ISF. Alors, vous aviez pris une position.
Mais vous étiez pour. Il y a quelques mois.
Que s'est-il passé, Marie?
Non, alors, est-ce qu'on
et
peut...
dans votre livre, vous en parlez.
Dans votre livre, vous dites, ouais, c'était quand même... un symbole finalement, et c'est un symbole qui est
absolument
utile pour lutter contre l'injustice.
Mais c'est pour ça que je défends la
sociale
nuance
et fiscale.
C'est pour ça que je défends la nuance et les réflexions en profondeur, et que le pour-contre n'est pas un exercice avec lequel je suis forcément à l'aise. Je vous explique sur l'ISF. Ce que j'ai dit à la base sur l'ISF, c'est que pour moi, il fallait évaluer la transformation de l'ISF en IFI. Ça, c'est dans la loi. Et quand je l'ai dit, j'avais l'impression de faire une proposition complètement bolchevique. Mais enfin, c'est dans la loi.
Une
ça a été voté. Non, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai dit, c'est que si l'évaluation d'Aventure était négative, il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités et faire des propositions en cohérence. Si la réforme, elle n'est pas efficace, et bien dans ces cas-là,
vous y croyez pas trop.
À
force de vous entendre, tous les membres du gouvernement se réfugient derrière cette évaluation, mais tous espèrent ou pensent qu'elle sera négative et que du coup, il faudra rétablir l'ISF ou une mesure équivalente, non?
Sincèrement, je ne présage pas de l'issue du débat, mais pour revenir sur ce que vous disiez sur l'ISF. Moi, je crois que l'ISF, tout le monde s'accorde pour dire que ce n'était pas forcément un impôt qui rapportait énormément à l'économie au global, mais il y avait une valeur symbolique de l'ISF, c'est-à-dire que les gens qui se disaient, bon, quand même, moi, je paye beaucoup d'impôts, j'ai l'impression d'être surtaxé, mais il y a des gens très riches qui payent encore plus d'impôts.
Donc, vous êtes pour une mesure symbolique aussi.
Moi, je suis pour qu'on fasse en sorte que le consentement à l'impôt revienne. Et on voit qu'il y a des choses qui sont assez flagrantes. On a d'un côté, dans ce mouvement des Gilets jaunes, des gens qui sont opposés à l'impôt de façon peut-être globale, et de l'autre côté, qui participent massivement à des cagnottes, ce qui est une autre forme de redistribution et de solidarité. Pourquoi ?
Ça, vous en parlez dans votre livre.
J'en parle dans le livre, absolument, parce que j'ai vraiment analysé ce phénomène en interrogeant beaucoup de monde, parce qu'ils nous disent les cagnottes, c'est plus lisible. Mais je crois que ça veut dire qu'on est à un moment de fracture incroyable dans la société.
Un Big Bang fiscal ?
Ça veut dire qu'on a des gens qui font plus confiance à une start-up qui fait des cagnottes en ligne, alors qu'on n'a aucune garantie de où va l'argent au final et d'est-ce qu'il est véritablement dévolu à cela qu'à l'État. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut qu'on ait une plus grande lisibilité de l'impôt.
Big Bang
et que
fiscal.
Chacune. Big Bang fiscal, je ne sais pas, mais en tout cas, une plus grande lisibilité de l'impôt, que chacun sache
exemple,
ce qu'il paye.
Je ne sais pas très concrètement, pour qu'on taxe davantage les successions quand elles sont importantes. Ça peut être une mesure d'égalité, celle que vous réclamez dans votre livre.
Là, de la même manière, je crois qu'il faut laisser paisiblement le grand débat arriver à sa fin, particulièrement sur les questions de fiscalité, parce qu'on voit que chacun a des propositions à formuler. D'ailleurs, La République En Marche formulera ses propres propositions en ajout à celle du gouvernement la semaine prochaine. Moi, personnellement, je ne me prononce pas sur ce sujet en particulier. Ça ne fait pas partie des domaines sur
d'autres
lesquels je me bats.
D'autres ministres l'ont fait. On a vu
d'autres
qu'il y avait Jacqueline Gourault la semaine dernière qui était pour l'impôt universel.
Absolument. Moi, je crois que ce qui est important dans la fiscalité, c'est un, plus de lisibilité, et deux, qu'on ait le sentiment de plus de justice fiscale. Que chacun se dise, je ne suis pas plus taxé que mon voisin.
Elle
en
n'existe
proportion
pas aujourd'hui, cette justice
fiscale. Il y a un sentiment d'injustice fiscale et de lisibilité insuffisante. Regardez, quand vous recevez votre taxe sur les ordures ménagères, qui sait exactement à quel endroit de la feuille d'impôt est-ce que c'est noté que c'est les ordures ménagères, que ça va servir à telle chose, ça n'est pas inscrit à ce stade.
Christophe Jacubizi.
Alors justement, ce que vous dites sur le fait qu'il y a ce sentiment d'injustice, notamment fiscale, est-ce que ça veut dire qu'il faut que la deuxième partie du quinquennat, l'acte 2, comme on dit, soit un peu différent du premier? Est-ce que cet acte 2 doit être consacré justement à donner le sentiment aux Français qu'on les écoute davantage, qu'il y a une politique plus sociale? Est-ce qu'il faut changer de braquet?
Moi, je crois que ce n'est pas uniquement une question de sentiment, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et le président de la République l'a dit dès le début, le programme, souvenez-vous, on l'a répété de nombreuses fois, c'était libérer, protéger et unir. Donc, je crois que là, on a lancé un certain nombre de mesures de libération de l'économie qui montrent déjà d'ailleurs des premiers résultats de façon factuelle et tangible.
Maintenant,
et
il faut protéger maintenant.
Absolument. Là, je crois qu'il faut qu'on mette, non pas qu'on ne l'ait pas fait jusque-là, parce que le plan pauvreté, par exemple, a lancé un certain nombre de mesures très importantes, mais je crois qu'il faut qu'on renforce cette partie sociale, cette partie de protection.
Est-ce que vous n'êtes pas, est-ce qu'il n'y a pas un peu deux camps là? Parce que quand on vous entend, on ne sait pas ce qu'on entend, c'est pas ce que dit Édouard Philippe depuis plusieurs jours. Il explique qu'il faut compenser les aides sociales par des contreparties. Il explique qu'il faut. En gros, il met en avant plutôt des mesures de droite et vous dites que maintenant il faut protéger. Donc est-ce qu'il va falloir trancher à un moment donné? Est-ce que d'ailleurs Édouard Philippe peut incarner ce deuxième acte?
Marlène Schiappa.
Je ne vois pas pourquoi le Premier ministre ne pourrait pas incarner ce deuxième acte. Sur la question que vous soulevez particulièrement sur le fait de compenser les aides sociales, en fait là c'est vraiment une phrase qu'il a dite qui a été complètement sortie du contexte puisqu'il répondait à une question qui lui était posée. Et des contreparties aux aides sociales, elles existent déjà. Par exemple, le RSA, ce n'est pas juste un chèque qu'on vous envoie. Vous devez vous engager à être dans une démarche d'activité, etc. Donc les contreparties, en réalité, elles existent
déjà. Mais l'acte 2, vous nous dites aujourd'hui, devrait être social, plus social.
Protecteur.
Et plus protecteur.
Il ne m'appartient pas de déterminer la ligne globale du gouvernement. Mais effectivement, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, parce que là, honnêtement, les partis de gauche proposent vraiment pas grand-chose d'intéressant sur ce sujet-là. Je crois que justement, au gouvernement, on est nombreux et nombreux, dans le gouvernement d'Édouard Philippe, à être mobilisés pour faire en sorte d'aller plus loin dans les mesures de protection, maintenant qu'on a libéré. Mais je crois que c'était important de le faire dans cet ordre-là. On ne peut pas distribuer et redistribuer des richesses qui n'existent pas. Et je crois qu'il n'y a aucune justice fiscale et aucune justice sociale dans un pays qui serait un pays en ruine ou un pays en déficit économique.
Mais donnez-nous une mesure concrète de protection. Donnez-nous une idée.
Je peux vous en donner énormément qui relève de mon champ d'activité. Il y en a qu'on a déjà faites et il y en a qu'on va faire. Par exemple, quand on crée un congé maternité pour toutes les femmes, y compris pour les agricultrices ou pour les professions libérales et les indépendantes, c'est une mesure de protection.
Fait.
Ça, c'est ce que nous avons
fait. Vous voulez faire.
Sur le plan pauvreté également, quand on crée des petits déjeuners gratuits dans les écoles des quartiers les plus populaires, je crois que c'est une mesure de protection aussi. Quand Agnès Buzyn promeut un certain nombre de remboursements, notamment sur les lunettes à 100%, etc. Je crois que là aussi, on est dans la protection.
Vous nous dites ce qui a été fait.
Voilà, mais je vous dis ce qui a été fait, mais c'est important de le rappeler,
oui,
parce que parfois,
que
on n'insiste pas sur
une mesure importante, symbolique, de protection des Français.
La protection, je crois que c'est un sujet qui est global, et moi, je vais vous donner un exemple qui relève de mon champ d'activité et qui concerne un certain nombre de femmes. Il y a 60 000 femmes en France, femmes et jeunes filles, qui vivent excisées. Et nous, on va lancer, là, dans les mois à venir, un plan excision pour protéger justement ces petites filles et ces femmes, pour éviter qu'elles soient envoyées dans d'autres pays et excisées, pour mieux les protéger et mieux condamner celles et ceux qui excisent ou qui en sont complices. C'est
dans
une mesure de protection, elle est extrêmement ciblée, mais elle est importante.
Est-ce qu'il faut changer de Premier ministre ?
Alors, vous me permettrez de vous dire que non. D'abord,
le nom de Jean-Yves Le Drian revient souvent, le ministre des Affaires étrangères.
Mais très bien, mais d'abord, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas moi qui nomme le Premier ministre, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il ne vous aura pas échappé non plus que je suis la secrétaire d'État d'Édouard Philippe, qui est mon Premier ministre auprès duquel je suis rattachée et qui a une volonté sur les sujets d'égalité femmes-hommes qui est très forte. Notamment, il a impulsé une grande campagne de communication en télé en dégageant un montant de 4 millions d'euros, ce qui est totalement inédit, pour interpeller les témoins des violences conjugales et des harcèlements de rue pour qu'ils interviennent.
Vous voulez le garder ?
Il ne m'appartient pas de choisir le Premier ministre.
Il ne faut pas envoyer un signal aux Français en disant « voilà, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre ».
Mais j'ai entendu personne dans la rue dire « Édouard Philippe, démission ». Je ne crois pas que ce soit une demande des Françaises et des Français, mais c'est quelque chose qui n'engage que moi. Et encore une fois, je ne nomme pas et je ne dénomme pas le Premier ministre. C'est l'inverse, c'est lui qui me nomme.
On va parler des sujets sur le féminisme et sur les femmes, tout simplement. Est-ce que vous n'êtes pas surpris qu'on ne pense jamais à une femme pour devenir Premier ministre dans ce pays, Marlène Schiappa ? Parfois, on dit que vous, ça peut être une de vos ambitions lointaines ou peut-être même proche, qui sait. Mais pourquoi, nous, c'est vrai, nous posons la question à des hommes, on l'envoie aussi poser à Agnès Buzyn, mais on se projette moins avec une femme. Comment ça se fait ?
Alors, d'abord, tous les jours, à chaque fois que j'ouvre la presse, je me découvre une nouvelle ambition qu'on me prête, qui la plupart du temps est une ambition à laquelle je n'avais même pas pensé jusque-là.
Donc Marseille, vous n'irez pas à la mairie de Marseille.
J'ai le grand plaisir d'être mariée et de vivre depuis 15 ans avec un Marseillais et donc d'être maman de deux petites filles à moitié marseillaises. Mais je crois qu'il y a des gens à Marseille, la députée Alexandra Louis par exemple, ou la députée Saïd Amara, ou beaucoup d'autres, le sociologue Jean Viard qui est de Marseille, qui était notre candidat à La République En Marche,
Christophe Castaner,
qui sont mieux positionnés que moi. Et toutes les ambitions à ce stade sont légitimes pour la ville de Marseille, mais je ne suis pas candidate à la candidature, en tout cas à ce stade, ce qui n'enlève rien à mon grand amour pour Marseille et mon encouragement.
Alors, pour revenir sur Premier ministre, pourquoi pas une femme ?
Absolument, c'est une vraie bonne question que vous me posez, mais j'observe que on projette plus rarement des femmes en position de Premier ministre, et je pense que c'est une bonne question que vous soulevez.
Oui, mais dites-nous pourquoi ?
Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays extrêmement sexiste. Enfin, je pense que la réponse,
Et Emmanuel Macron n'a rien changé en ça.
Mais pardon de le dire, mais là, je suis en train de vous répondre. Vous êtes trois messieurs en face de moi et j'en suis ravie. Je suis très heureuse de vous répondre.
Mais la rédaction. Et on vous pose la question aussi parce qu'on ne voit pas aussi suffisamment à la tête du pays de femmes, et nous-mêmes, la rédaction de RTL, et nos rédactions sont plurielles, c'est une exigence que vous avez manifestée. On en parlera d'ailleurs dans les qualités qu'il y a entre hommes et femmes dans les entreprises. Mais revenons.
Je suis ravie de vous répondre. Mais je crois qu'on ne met pas assez en avant les femmes, et je crois que pour les hommes, il y a une présomption de compétence, et pour les femmes, il y a une présomption d'incompétence. Je le répète sans cesse, mais quand vous êtes, par exemple, dans un meeting politique, vous voyez un homme en costume cravate arriver sur scène et vous ne le connaissez pas, le réflexe, c'est de se dire, tiens, voilà un expert. Un expert de quoi ? On ne sait pas, mais on préjuge qu'il a une compétence et qu'il est là et qu'il est légitime. Si vous voyez arriver une femme, pire si elle est jeune, pire si elle est issue de la diversité et pire si elle a par exemple une robe à fleurs ou quelque chose comme ça, la question ça va être, qu'est-ce qu'elle fait là elle ? On va pas se dire, tiens, on projette cette personne dans le rôle d'une experte.
Alors on n'est pas là pour un meeting, donc vous avez du public, mais en effet, ce n'est pas une émission où le manifeste son approbation, sa désapprobation. On continue avec Christophe Jacques-Cuvizine.
On aimerait votre avis sur cette polémique de la semaine sur le hijab vendu par Decathlon puis retiré par la firme. Votre collègue, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a pris clairement position pour la vente de ce type de vêtements en disant « Je veux aller chercher les femmes, les mères, les jeunes filles, partout où elles sont, comme elles sont, les encourager à la pratique du sport, car c'est, j'en suis convaincu, un levier puissant d'émancipation. » Vous auriez presque pu dire la même chose, non ? Vous ne le diriez pas ?
Roxana Maracineanu est la ministre des Sports et donc elle est parfaitement dans son rôle quand elle incite toutes les femmes à pratiquer, à s'engager dans une pratique sportive d'une part, et d'autre part quand elle rappelle le droit. Sur la question de la vente du hijab de sportif par Decathlon, cette vente, elle n'enfreint pas le droit. Cette vente, elle est parfaitement légale. Mais pour moi, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est la question de la liberté de conscience, c'est-à-dire est-ce que les femmes peuvent choisir de porter ou choisir de ne pas porter un hijab, que ce soit pour courir ou pour faire autre chose. Et derrière, il y a une question d'émancipation des femmes. Donc en fait, la vente de ce hijab par Décathlon, un, elle est légale. Deux, elle n'enfreint pas la laïcité, puisque la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, mais c'est aussi la liberté de conscience.
Et est-ce qu'elle vous a choqué, cette vente de hijab dans un magasin français?
J'ai publié une longue tribune sur le sujet dans le Huffington Post, justement, parce que je crois qu'on ne peut pas résumer ce sujet à une petite phrase ou à une punchline.
On n'a pas tout à fait compris votre tribune. Qu'est-ce qu'au fond de vous-même? Non, mais c'est vrai.
D'accord.
Est-ce que ça vous a choqué que Décathlon vende cet accessoire ou pas?
Ça m'a interpellée parce que je crois que le droit ne peut pas être la seule manière de lire les choses. C'est légal. Pour autant, est-ce qu'on doit interroger cette question politiquement? Oui, je le crois. Parce que quel est le message que la France envoie à toutes les femmes courageuses qui, partout dans le monde, sont menacées de mort parce qu'elles retirent leur voile, sont contraintes de porter des voiles partout dans le monde, et d'ailleurs dans certains quartiers aussi en France, dans lesquels les femmes ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas voilées? Je crois que c'est une question qu'on doit se poser.
Et dans le
même temps, je crois aussi qu'il ne faut pas discriminer les femmes qui, elles-mêmes, ont choisi en toute liberté de conscience de porter le voile et qui recherchent, par exemple,
du travail. Conclusion, vous êtes contre pour la vente par Décathlon
de... Alors moi, Décathlon a retiré de la vente en 24 heures. Je suis opposée au fait qu'on contraigne des femmes à porter le voile. Pour moi, le voile n'est pas un signe d'émancipation des femmes. Ce n'est pas un progrès que les femmes portent le voile. C'est mon opinion. Si une autre femme, au nom de la liberté de conscience, fait le choix de porter un voile, elle doit pouvoir...
Alors justement, il y a eu des propos tenus par l'un de vos collègues.
L'un de vos collègues de la majorité présidentielle, M. Aurélien Taché, qui a fait... à l'occasion d'un débat cette semaine, une comparaison en disant que le voile, finalement, dans une famille musulmane pour une jeune femme, c'était comme un serre-tête pour une jeune femme dans une famille catholique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Aurélien Taché est député de La République En Marche, il a le droit d'exprimer son opinion, y compris sa ligne personnelle. Maintenant, sur cette comparaison en particulier, moi je crois que tout ne se vaut pas. Je pense qu'il faut cesser cette forme de relativisme qui nous fait mettre sur le même plan des choses qui sont très opposées. On voit bien derrière l'allusion au serre-tête quelle catégorie de la population est visée. Je crois que personne ne peut ici penser que je représente cette catégorie
de
la population.
Qui est de moins en moins portée d'ailleurs par rapport au voile.
Mais peu importe, néanmoins. Ce n'est pas un signe religieux, absolument. Et il n'y a aucun pays dans le monde dans lequel les femmes soient légalement obligées de porter des serre-têtes. Mmh. Aucune femme dans le monde ne sera lapidée parce qu'elle a refusé de porter un serre-tête. Un serre-tête, ça n'est pas un symbole
religieux. Donc vous récusez la comparaison de M. Taché.
Mais complètement. De la même manière, les gens qui comparent le voile et la mini-jupe en disant la mini-jupe, c'est tout aussi aliénant que le voile, encore une fois, je ne le crois pas. L'enjeu, c'est comment chaque femme peut être libre de porter absolument ce qu'elle veut dans les limites de la loi, mais nulle part dans le monde, dans aucun pays, une femme ne sera lapidée pour avoir refusé de porter une mini-jupe.
À travers cette vente par Décathlon qui a été retirée, certes, est-ce que vous ne constatez pas une communautarisation quand même de plus en plus forte et parfois encouragée de la société?
Mais si, complètement. Et c'est l'un des sujets de clivage qui m'a interpellée, qui m'a amenée à écrire ce livre « Une et indivisible ». C'est parce que je crois qu'on va vers une société qui a un repli identitaire. Mais l'identité, elle peut être religieuse, elle peut être aussi sociale, elle peut être aussi territoriale. Et c'est ce qu'on a vu avec l'opposition entre d'un côté les campagnes ou les gilets jaunes et de l'autre côté ce qui serait la start-up nation. Mais on ne cesse de nous dire que ces deux catégories de la population seraient antagonistes et opposées.
Sauf que celle-là, on était habitué à elle.
Attendez, justement, pour revenir sur ce que disait Yves Tréhard, Jérôme Fourquet publie cette semaine un livre sur l'archipélisation. La communautarisation, mais il parle d'archipel de la France, donc avec plusieurs communautés, il dit que ça se traduit notamment par des prénoms. Et qu'aujourd'hui, 18% de la population porte un prénom arabo-musulman, ce qui était moins le cas dans le passé. Est-ce que ça, pour vous, c'est un signe de communautarisation?
Il dit aussi que dans les familles juives, on redonne des prénoms juifs qu'on ne donnait pas auparavant. Enfin, il ne fustige pas une communauté plutôt qu'une autre. Il dit que dans les différentes communautés religieuses, notamment juives et musulmanes, on redonne des prénoms marqués, des prénoms bibliques.
Mais ça, c'est un constat global et qu'on peut faire aussi... Pardon, je suis d'origine corse, qu'on peut faire aussi en Corse. Depuis une ou deux générations, il y a davantage de prénoms vraiment corses qui sont
mais
donnés
vous le regrettez,
plus que des
Marlène
prénoms
Schaffer,
français.
Vous le regrettez?
Ni je regrette, ni je regrette pas. J'observe qu'il y a une forme de repli identitaire, effectivement, global. Que ce repli, encore une fois, soit territorial ou religieux. Après, sur la question des statistiques sur les prénoms globalement, moi, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un prénom arabo-musulman. Et je ne suis pas certaine. Je sais que l'Institut Montaigne avait déjà mené des travaux sur la base du prénom. Et ils ont une valeur scientifique aussi en termes de de recherche, mais je suis pas absolument certaine que ce soit flagrant. Mes deux enfants ont des prénoms étrangers et c'est parce que j'aime bien ces prénoms. Ça n'a pas de valeur communautaire derrière.
Alors, est-ce que vous regrettez quand même le fait que, pour le coup, le besoin d'identification il se manifeste dans le prénom plutôt que dans la volonté d'appartenir
à... Ce que je trouve assez dangereux, c'est quand il y a un repli, c'est-à-dire qu'il y ait une affirmation de son identité, que ce soit par le prénom ou par autre chose, je n'ai absolument aucun jugement de valeur à porter là-dessus. Ce que je déplore, c'est quand ce repli identitaire, il se manifeste par la haine de l'autre. Et on voit qu'actuellement, on a une recrudescence absolument exponentielle de tout ce qui concerne la haine de l'autre. Les actes antisémites, mais aussi les actes homophobes, les actes sexistes, les actes racistes, les actes anti-musulmans, tout ce qui concerne le rejet de l'autre, la haine de l'autre. Donc qu'il y ait une affirmation culturelle, c'est la liberté de chacun, mais cette affirmation, elle doit se faire dans le cadre de la République, dans le cadre de la laïcité qu'on évoquait tout à l'heure, de l'égalité femmes-hommes également, et de l'union de la nation. La République, elle est indivisible.
Justement, quand vous parlez de laïcité dans votre livre, Marlène Schiappa, et vous pouvez surprendre parce que vous faites le lien avec le clientélisme politique. Vous prenez un exemple très concret, vous dites que quand un élu va, par exemple, dans une synagogue le jour de Kippour, du Grand Pardon, eh bien, ça participe d'un clientélisme politique. Est-ce que vous n'allez pas trop loin dans votre conception de la laïcité, quand vous dites ça?
Peut-être, mais comme disait Françoise Sagan, l'élégance, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Donc c'est ma position, c'est la mienne, je la partage. Moi, je crois que le clientélisme religieux, il est dangereux. Je crois qu'il est contraire à la loi de 1905. Et je crois que c'est difficile, quand on est un élu local, de choisir ensuite. Et je crois que quand on commence à aller dans une cérémonie religieuse, eh bien, ça veut dire qu'on va dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Et on finit par voir la laïcité comme un camembert qu'on diviserait entre différentes communautés. Et donc pour moi, c'est le début
d'une forme de... Mais il faut interdire cette présence. Qu'est-ce qu'il faut réformer justement la loi de 1905
mais moi,
pour la durcir?
Tout ne passe pas forcément par la loi. C'est une conception de la séparation des églises et de l'État. C'est la mienne. D'autres ont d'autres conceptions. Tout ne passe pas forcément par la loi.
Par exemple, quand il y a eu les attentats du mois de janvier 2015, après notamment ceux de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Vincennes, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, si ma mémoire est bonne, sont allés à un office religieux dans une synagogue. C'était leur place?
Il ne m'appartient pas de juger si c'était leur place ou pas. Je crois qu'il y a des moments dans lesquels, qui sont des moments particuliers. Quand la France est frappée de terrorisme et qu'on voit qu'il y a eu haine particulière envers une partie des citoyens français, en l'occurrence envers les citoyens qui sont juifs, je crois que là, il est important que l'État donne un signal et donne un signal de soutien. Et ce serait la même chose si une autre partie de la population était visée. Donc on voit que ça ne doit pas être une règle forcément, mais que c'est une pratique du quotidien. Et la laïcité, je crois qu'elle interroge et qu'elle pose des questions. Et dans ce livre, j'assume le fait de poser énormément de questions. Vous avez parlé des statistiques ethniques tout à l'heure.
On va y revenir.
Je ne suis pas forcément favorable, je pose les questions.
On va y revenir, mais c'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour, je suis Jean Latizeau de SOS Papa. L'intérêt des enfants, c'est l'équilibre des liens avec chaque parent. Mais les juges refusent au père la résidence alternée dès que les mères s'y opposent. Le 18 septembre, je vous ai remis une fiche soulignant que l'égalité femmes-hommes, ce doit être dans les deux sens. Face à l'inégalité subie par les pères séparés et leur entourage, pouvez-vous officiellement vous engager pour une loi garantissant l'égalité parentale? Merci.
Marlène Schiappa, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette première partie.
Alors, moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je suis favorable à la résidence alternée entre le père et la mère par défaut, quand les conditions le permettent, et notamment quand il n'y a pas de violence conjugale ou intrafamiliale.
On arrive donc au terme de cette première partie. On vous retrouve dans quelques instants, Marlène Schiappa, pour parler notamment statistiques ethniques, mais aussi élections européennes. À tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Christophe Jacubizine et Yves Tréhard qui vous posent la première question de cette seconde partie.
L'Algérie connaît une période particulièrement agitée. Ce soir, c'est la clôture des candidatures pour l'élection présidentielle. Le président sortant, Bouteflika, brigue un cinquième mandat. Or, il est très malade, il ne peut plus parler, il est à Genève. La France, est-ce que la France peut accepter que un simulacre de scrutin puisse avoir lieu en Algérie?
Marlène Schiappa.
Mais vous savez très bien que la France et l'Algérie ont une histoire commune et qu'il y a une amitié extrêmement forte qui unit l'Algérie et la France. Maintenant, la France regarde de très près ce qui se passe au niveau de cette élection, mais je crois qu'il est important aussi de ne pas faire d'ingérence et de laisser en toute liberté le peuple algérien choisir qui le représentera.
Vous n'avez pas peur que si jamais le chaos s'installe dans ce pays, le désordre, eh bien, une forte vague d'immigration vienne en France ?
Nous n'en sommes pas là à ce stade. Là, je crois que pour l'instant, on prépare, l'Algérie prépare ses élections. Il faut faire en sorte qu'elles se déroulent sereinement et nous prendrons ensuite les choses les unes après les autres.
Autre question liée à l'actualité étrangère, le retour de djihadistes éventuellement en France, hein, puisque l'État islamique est en train de terminer son cours, règne sur une petite partie d'un territoire. Est-ce que vous souhaitez le retour des femmes et enfants ? Est-ce que vous vous y préparez ?
Je crois que c'est une question extrêmement difficile et qu'on ne peut pas regarder uniquement à l'aune de tel ou tel grand principe. Parce que les enfants de djihadistes sont avant tout des enfants. Je pense particulièrement à ceux qui sont en bas âge. Un enfant, c'est un enfant, quel que soit ce qu'ont commis ses parents. Donc je pense qu'il faut véritablement faire attention et être à la fois sur la protection évidemment de la France, notamment la protection contre le terrorisme, et également dans la protection et le respect des droits de l'enfant.
On nous a dit que la France se préparait à l'arrivée de justement d'épouses de djihadistes et d'enfants, que ça devait être fait en février, et c'était le cas. Est-ce que vous nous le confirmez ?
Je ne confirme pas ni je n'infirme, ça ne relève pas de ma compétence de vous répondre sur ce sujet-là. Moi, je vous réponds sur ce qui relève de ma compétence, et c'est cette protection-là.
Maître Maktouf, qui est une avocate qui défend des familles de victimes, dit aujourd'hui dans un journal qu'il faut impérativement créer des centres spécialisés de rétention pour les femmes. Vous êtes d'accord ?
Pour les femmes djihadistes ou pour les femmes djihadistes ? Je crois qu'il y a deux choses différentes. Pour moi, les femmes djihadistes, elles doivent être traitées exactement comme les hommes djihadistes. Moi, je ne fais pas de différence. Je crois que l'égalité femmes-hommes, c'est ça aussi. Je crois qu'un acte terroriste, qu'il soit commis par une femme ou par un homme, il a exactement le même effet, même si statistiquement, il y a moins de femmes qui en produisent. Mais je ne fais absolument pas partie des gens qui demandent plus de clémence pour les femmes djihadistes. Pour moi, elles doivent être traitées exactement comme
les hommes.
Je ne me prononce pas particulièrement sur ce sujet, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'elle soit traitée exactement comme les hommes et que là encore, il n'y ait pas de relativisme et que ça n'est pas une excuse d'être une femme quand vous êtes djihadiste.
Christophe Jacubizine.
On va revenir sur un point qu'on a à peine abordé en première partie, c'est les statistiques ethniques, puisque dans votre livre, vous dites que vous êtes plutôt favorable à leur mise en place.
Pas exactement.
Non, mais que ça pourrait aider à comprendre effectivement les raisons, les racines de l'injustice ou des... Est-ce que de quelle manière on peut en faire sans trop en faire, du coup ?
Alors, moi, je ne suis pas... dans ce livre, j'ai voulu poser beaucoup de questions et ouvrir beaucoup de réflexions.
On demande des réponses, après les questions.
Alors, vous avez bien raison. Sur les statistiques ethniques, je vais vous répondre. Je ne suis pas favorable à ce qu'on crée des statistiques ethniques. Je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques en France. La laïcité à la française, entre autres, pas uniquement la laïcité, mais notre vision de la République, fait que, contrairement à d'autres pays, vous n'êtes pas obligé de déclarer officiellement votre religion, ça relève de l'intime, ni même vos origines ou votre, entre guillemets, appartenance ethnique, etc. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques. Néanmoins, ce que j'observe, c'est que c'est difficile de lutter contre ce qu'on ne mesure pas. Et c'est toute la difficulté des discriminations. Vous savez que je suis aussi chargée de la lutte contre les discriminations. C'est extrêmement difficile de rendre visibles les discriminations.
Vous auriez besoin d'outils qui vous permettent justement...
Alors là, on a commencé un premier outil avec Julien Normandie et Muriel Pénicaud. Et il y a un grand testing inédit qui a été fait sur 1000 entreprises en France. Un testing contre les discriminations, notamment à l'embauche. Les résultats vont être publiés dans quelques semaines. Et on travaille à la création d'une sorte de brigade anti-discrimination, qui est une proposition qui avait émergé du grand débat sur un plateau de télévision. Donc on combat fermement les discriminations, mais c'est vrai que c'est plus difficile de combattre ce que vous pressentez dans l'air, mais ce qui est difficilement tangible.
Comment, de quoi vous auriez besoin comme statistique ethnique, précisément ?
Non, ce que je dis simplement, la question que je pose dans ce livre, c'est qu'effectivement, c'est une question qui peut se poser. Et moi, j'entends aussi les gens qui sont favorables, et il y en a beaucoup qui sont favorables à la création d'outils statistiques. On voit que Jérôme Fourquet, que vous citiez tout à l'heure, a fait ce travail sur la base des prénoms. L'Institut Montaigne l'avait fait aussi précédemment. Je pense que la question, elle doit se poser sur comment on mesure ces choses-là.
Alors, vous dites qu'il y a des discriminations beaucoup envers les femmes. Et nous avons un sondage, aujourd'hui, que nous publions aujourd'hui avec RTL Girl et Wonder, sur le féminisme, Marlène Schiappa. Seulement un Français sur deux, un peu plus, 54% précisément, se revendique féministe. Est-ce que pour vous, c'est un échec ?
Non, d'abord, je ne me sens pas dépositaire du mot féministe, mais ce que j'observe, c'est que depuis longtemps, le mot féministe, il a été dégradé. Il y a une réappropriation des femmes du mot féministe pour en faire un mot qui devienne plus grand public. Qu'est-ce que c'est qu'être féministe ? On nous fait comme si, on nous fait croire parfois que ce serait une notion un peu radicale. Être féministe, c'est simplement être radicalement pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour l'émancipation des femmes au même titre que les hommes, que les femmes puissent jouir de tous leurs droits, ni plus ni moins, comme les hommes qui puissent jouir aussi de tous leurs droits, ni plus ni moins. Mais ce mot, il a été assez dégradé, il a pris une connotation assez négative au fur et à mesure des années, avec des caricatures qui ont été faites. Je vous rappelle les affiches qui avaient été faites contre le mouvement des suffragistes, qu'on avait d'ailleurs rebaptisé suffragettes, c'était pas le nom qu'elles se donnaient elles-mêmes, qui disaient que les femmes qui s'intéressaient à la chose publique et à la politique étaient des harpies hystériques, pas épilées, qui s'occupaient pas de leurs enfants et qui laissaient leur maison dans un désordre pas croyable. C'est une caricature des féministes qui est faite de très 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 longue date.
Alors, Christophe Jacubizine.
Ça va au-delà du féminisme, mais la semaine dernière, le Président de la République a participé avec vous à un grand débat au féminin à Pessac. La députée Couillard, qui est la députée de locale, n'avait invité que des femmes, elle dit que c'était réservé aux femmes. Alors, dans votre livre, qu'on a lu attentivement, vous dites, vous êtes choqué parfois par les rassemblements où il n'y a que des noirs, etc. Est-ce que là, oui, c'était pas choquant d'un débat où va le Président, où n'était finalement interdit aux hommes ?
Alors le débat n'était pas interdit aux hommes, mais c'est une très bonne question que vous me posez, parce que moi je crois que le but de l'égalité femmes-hommes, le but du féminisme, c'est qu'on puisse partager ensemble, les femmes et les hommes, un même espace de travail, de transport, un espace urbain, un espace de loisirs. Et donc je suis plutôt opposée effectivement aux réunions.
La lettre était marquée, on a vu la lettre de la députée réservée aux femmes. Hein.
Alors moi j'avais pas vu qu'il s'agissait quelque chose de réservé aux femmes, il y avait quelques hommes qui étaient présents, notamment le maire de Pessac qui nous accueillait, le président Sébastien Lecornu, et puis il y avait une dizaine d'hommes qui étaient présents. Mais effectivement l'idée de la députée, et je soutiens pleinement Bérangère Couillard qui a une très bonne idée, c'était de donner davantage la parole aux femmes, parce qu'elle s'est aperçue que dans le grand débat national, souvent les hommes monopolisent la parole et il est plus difficile pour les femmes, soit parce que la parole est monopolisée par les hommes, soit parce qu'il y a une autocensure des femmes, de parler. Je vous raconte une anecdote très rapide. J'étais à Bergerac pour un grand débat mixte femmes-hommes. Trois femmes ont pris la parole parce qu'on leur a demandé d'ouvrir le grand débat. La quatrième prise de parole, c'était un homme qui a crié « Bah moi, je suis pas une réunion du planning familial, je suis un grand débat, donc je veux pas parler de ces sujets, de femmes, de pensions alimentaires, etc. » Voilà ce que vivent beaucoup de femmes partout quand elles essayent de prendre la parole.
Ça va avec, est-ce qu'il faut pas plus de moyens ? Daniel Bousquet, qui est député, une ancienne députée socialiste, disait cette semaine chez un confrère que c'était une grande cause du quinquennat, la lutte pour l'égalité homme-femme, et un tout petit budget, le plus petit budget qu'on pouvait imaginer, 500 millions d'euros nécessaires, alors que vous n'avez que 80 millions d'euros. Alors,
Daniel Bousquet était effectivement une députée du Parti Socialiste, parti auquel, je crois, elle appartient toujours, et elle a été entre-temps présidente du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, et elle a fait dans ce cadre un travail extrêmement important sur les questions d'égalité femmes-hommes. Pour vous répondre sur le budget, il n'y a jamais eu, jamais, autant d'argent engagé sur l'égalité femmes-hommes. Pour 2019, les députés ont voté, je vais vous le dire, 530 millions d'euros en interministériel. Et je crois qu'il serait vraiment vain de réduire le budget de l'égalité femmes-hommes au programme, je vais être un peu technique, mais au programme 1037 du budget de l'État, qui est celui qui gère les subventions, qui est celui que j'administre. Je vous donne deux exemples. La plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles, ça n'est pas mon budget qui la prend en charge, c'est celui de Christophe Castaner et de Laurent Nunez, puisque ce sont des policiers et des gendarmes qui ont été formés et qui, à plein temps, répondent sur un chat en ligne 24 heures sur 24 à des femmes et à des témoins de violences sexistes et sexuelles. Et bien ça n'est pas sur mon budget. Un deuxième exemple, les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle,
c'est
qui
pas
sont
vous non plus
maintenant mises en place à l'école, c'est le budget de Jean-Michel Blanquer de
donc
l'éducation
vous dites
nationale.
Que beaucoup de ministères s'en occupent, pas seulement le vote.
Je vous dis qu'il n'y a jamais eu autant de volontarisme politique dans le cadre de la grande cause du quinquennat et jamais autant de moyens que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République sur l'égalité femmes.
Christophe Jacubizine.
Alors ça va peut-être pas faire plaisir à l'interlocuteur que vous aviez dans le grand débat, mais je vais vous parler de pensions alimentaires parce que le président l'a évoqué jeudi. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à recouvrer des pensions alimentaires qui leur sont dues. Est-ce qu'il faut prévoir un mécanisme d'assurance ou un organisme chargé de pallier en fait l'absence de versement et après d'aller le récupérer auprès du père défaillant ?
Oui, moi je crois qu'on a vraiment un sujet et que là, l'État pour l'instant n'est pas à la hauteur en termes d'accompagnement des femmes et des mères isolées sur les pensions alimentaires. Donc c'est un sujet que nous sommes en train de travailler, notamment avec ma collègue Christelle Dubos, qui est secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, pour faire en sorte, là nous sommes en train d'expertiser, pour vous dire tout en toute transparence, différents scénarios qui permettraient de recouvrir les pensions alimentaires. Que nous ont dit ces femmes ? Il y avait énormément de femmes sur les ronds-points, et notamment de mères isolées, qui nous ont dit qu'elles ne recouvraient n'ignoraient pas la pension alimentaire et qu'elles ne se servaient pas de ce qui existait parce que, un, certaines ne se sentaient pas légitimes à envoyer un huissier, par exemple, chez le père de leurs enfants, et c'est leur position et on peut la respecter. Deux, certaines nous disaient qu'elles ne connaissaient pas les dispositifs existants. Il y a un dispositif existant qui s'appelle l'ARIPA, qui n'est pas suffisant pour le moment, puisque beaucoup de femmes ne le connaissent pas, et beaucoup de femmes et de mères isolées qui le connaissent ne s'en servent pas parce qu'elles le trouvent trop administratif et trop, trop compliqué. Donc oui, nous travaillons fermement sur la question des pensions alimentaires.
Est-ce qu'il faut une loi pénalisant le non-paiement des pensions ?
Alors, pour l'instant, c'est déjà pénalisé quand vous ne payez pas la pension alimentaire.
Ou des saisies sur salaire.
Vous ne payez pas la pension alimentaire, c'est constitutif d'un abandon de famille. Donc, c'est déjà pénalisé et on n'ira pas vers une dépénalisation du non-paiement des pensions alimentaires. C'est vraiment quelque chose d'important. Je crois qu'au-delà de la loi, c'est vraiment une politique publique qu'il nous faut mettre en œuvre. Le 7 mars, le gouvernement organise des conférences inversées. J'ai demandé à 50 lieux partout en France de mettre des maires isolés sur scène et des institutionnels, banquiers, administratifs, assurances, élus, CAF, dans la salle qui écoutent ces mères isolées pour parler notamment de ce sujet.
Puisque vous parlez de pénalisation, vous avez mis en place l'année dernière, même ça s'applique à cette année, le harcèlement des amendes, des sanctions contre le harcèlement de rue. Est-ce que vous pouvez nous en dresser un premier bilan, Marlène Chapia? Combien de personnes, d'hommes, ont été sanctionnées et ont écopé d'une amende?
Alors pour l'instant, nous sommes en train de faire remonter les données, donc je ne peux pas tout de suite vous donner un premier bilan, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous allons confier une mission parlementaire à la députée de Marseille, Alexandra Louis, qui était rapporteure de la loi contre les violences sexistes et sexuelles, pour évaluer un an après, donc à partir du mois de septembre qui arrive, exactement le nombre d'amendes qui ont été mises, la formation des policières et des policiers, le nombre de personnes assermentées qui ont pu mettre ces amendes pour harcèlement de rue.
On nous dit que c'est compliqué sur le terrain à verbaliser.
Oui, mais bien sûr que c'est compliqué, mais absolument.
Et coup, il y a peu d'amendes.
Alors, il y a des amendes déjà qui ont été mises. Et ce qui est important pour moi, c'est de voir que les amendes, elles n'ont pas dégradé le reste. Parce que le risque, c'était de dire, eh bien, les amendes pour harcèlement de rue, elles vont remplacer des condamnations devant les tribunaux pour, par exemple, agression sexuelle ou injure publique. On voit que ce n'est pas le cas. Ça ne dégrade pas. Ça vient répondre à quelque chose qui n'était pas couvert par le droit. Et au contraire, nous avons beaucoup de retours de policiers et de gendarmes qui nous disent que grâce à cette nouvelle loi, ils ont en main les outils pour verbaliser et mettre immédiatement une amende. Mais nous allons faire ce premier bilan à un an. Si ça n'est pas suffisant, eh bien nous renforcerons la formation, les moyens ou tout ce qui doit être renforcé à cet égard.
Sur, justement, toujours ce harcèlement, il y a plus grave, les infractions sexuelles. Et Le Parisien nous apprend aujourd'hui que les plaintes pour infractions sexuelles ont bondi de 13% en un an suite au mouvement MeToo, mais que les deux tiers des enquêtes judiciaires et policières n'aboutissent pas, Marlène Schiappa. Est-ce que la justice manque de moyens pour enquêter sérieusement ?
Je ne suis pas certaine que ce soit une question de moyens, mais je partage complètement le constat. Il y a même des chiffres officiels qui nous disent que seuls 1% des violeurs sont effectivement en prison. Ce sont les chiffres faits sur les bases des éléments du calcul du ministère de la Justice. C'est-à-dire que d'abord, il y a très peu de plaintes, parce qu'on a ce phénomène de honte de femmes qui ne vont pas déposer plainte. C'est pour ça que nous avons créé cette plateforme de dialogue avec les policiers et que nous formons les policiers et les gendarmes pour faire en sorte que les femmes soient mieux accueillies dans les commissariats et qu'elles puissent déposer plainte. Et ensuite, il y a la judiciarisation et le procès. Et là, il y a un progrès manifeste à mener, puisqu'il n'y a pas assez de condamnations à ce stade, parce que apporter la preuve, c'est très difficile, et c'est pour ça que nous avons fait une loi pour faciliter la caractérisation du viol, par exemple quand la victime est âgée de moins de 15 ans.
Est-ce qu'il y a plus d'infractions sexuelles ou est-ce que la parole s'est libérée?
Ça, c'est toujours très difficile à dire, puisque notre chiffre de base, ce sont les chiffres des plaintes. Les associations nous disent qu'il y a une recrudescence d'appels. Par exemple, au 39-19, nous avons augmenté les moyens du 39-19 en donnant un objectif. L'objectif, c'est que 100% des appels qui sont passés au 39-19 soient répondus pour toutes les femmes qui sont victimes de quelque sorte de violence sexiste sexuelle.
Christophe Jacubizine.
L'égalité entre les femmes et les hommes, ça passe aussi par l'égalité salariale. Il y a cette étude de Cofidis qui révélait aujourd'hui le revenu moyen pour un homme, c'est 2 213 €. Pour une femme, c'est 1 411 €. 802 € de moins de revenus. Alors, c'est pas seulement le salaire.
Bien sûr.
C'est énorme. Et normalement, vous avez lancé une campagne auprès des entreprises de plus de 1000 salariés, je crois, pour savoir si ces égalités sont petit à petit compensées. Est-ce que vous avez déjà des éléments à nous donner. Et est-ce que vous allez faire du name and shame, c'est-à-dire dénoncer les entreprises qui ne respectent pas leur engagement de rapprocher les salaires?
Alors, beaucoup Absolument. De questions, vous laisse le temps de
beaucoup
répondre
de
sur ce thème.
La première, d'abord, moi, je voudrais saluer cette enquête. Le fait que cette enquête ait été lancée par Cofidis, c'est important parce que je crois qu'un des plus grands dangers qui guette les politiques publiques d'égalité femmes-hommes, c'est ce que des sociologues appellent le mythe de l'égalité déjà là. C'est-à-dire le fait de dire, bon, ça va, maintenant les femmes ont tous les droits, elles peuvent voter, il y a une femme présidente du FMI, on voit des femmes partout, donc c'est bon, l'égalité est là. Non, l'égalité n'est pas là. Et cette étude nous permet de le montrer très clairement. Et comme l'a dit l'une des personnes qui est membre du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes du G7 qui s'est réuni à Élysée récemment, l'argent, c'est le pouvoir et les femmes ont moins de ces deux choses, moins d'argent et moins de pouvoir.
Alors,
que les hommes.
Pour ce qui est du pouvoir, vous êtes aussi un peu responsable parce que j'ai regardé le nombre de nominations de femmes en Conseil des ministres, 36% seulement.
Oui, bien sûr.
Vous êtes très loin du compte.
On est très loin du compte. Les femmes sont 52% de la population. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas 52% de nominations qui soient des nominations de femmes. Donc je crois qu'il nous appartient à nous, collectivement, gouvernement, de d'abord créer des viviers de femmes pour que ce soit plus facile
c'est
d'identifier.
C'est quoi un vivier de femmes?
Alors un vivier de femmes, c'est dans les processus RH en interne, dans les administrations.
Ressources
trop
humaines.
Souvent, ce qu'on nous dit, c'est « j'ai pas trouvé de femmes ». Or, quand on cherche un peu, souvent, on en trouve des femmes quand on est obligé de les chercher. Donc là, l'idée de ces quotas, c'est d'obliger à chercher. Mais derrière, il faut que nous, collectivement, nous faisions ce travail de faire évoluer des femmes petit à petit, d'identifier des talents, de les faire
et
grandir pour les nommer à ce
poste. Vous signez une pétition, d'ailleurs, dans le journal du dimanche, ce jour, pour qu'il y ait au dernier tour de sélection toujours une femme. Est-ce
Absolument.
Que ça peut entrer dans la loi?
Moi, je crois que pour l'instant, ce qu'ont voulu dire ces dizaines de dirigeants qui sont engagés sur l'initiative de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État à l'économie, ils ont voulu dire qu'ils voulaient non seulement appliquer la loi, mais aussi aller plus loin. Et là, c'est une forme de soft power qu'ils mettent en place. Il est démontré, et Agnès Pannier le rappelle dans cette tribune, que plus vous avez de femmes, plus vous avez de mixité, plus les entreprises sont innovantes, compétitives et performent. Je crois que c'est ce langage qu'il faut parler avec les entreprises.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Alors pour les réactions sur les réseaux sociaux, on commence avec une lettre que vous avez envoyée à vos collègues ministres pour les réprimander, justement
on
vous
en
parliez, qu'il n'y a pas assez de femmes dans leur administration et vous allez même jusqu'à les menacer de pénalités financières si la proportion de femmes n'augmente pas. Vous avez quel ministre dans votre viseur? Est-ce que c'est par exemple Sébastien Lecornu qui est ministre en charge de collectivité territoriale et qui avait déjà été justement dans la ligne de mire de Quotidien parce qu'il ne respectait pas la parité sur 8 personnes dans son cabinet, il y a une seule femme.
Alors, pour vous répondre, c'est une lettre que j'ai envoyée à la totalité des membres du gouvernement. C'est un rappel arithmétique. Il y a, je crois, 4 ministères qui sont condamnés et donc qui vont payer des pénalités. Ce n'est pas moi qui
Elles
les menace
combien,
de pénalités.
Ces pénalités
c'est la loi. C'est 90 000 euros par unité d'emploi manquant. Ce sont les dispositions de la loi Sauvadet. À chaque fois que vous n'avez pas nommé une femme, vous auriez dû la nommer, eh bien, il y a 90 000 euros de pénalités.
Et quels ministères qui sont concernés?
Honnêtement, je n'ai plus la liste des ministères en tête là, mais on doit pouvoir les retrouver.
Mais vous avez dressé la liste de ces ministères, enfin de ces ministres fautifs.
Alors, cette liste, elle est dressée. Encore une fois, ce n'est pas moi, Marlène Schiappa, c'est la loi. Cette liste, elle est dressée et les pénalités sont reversées. Mais ce que je
Elles
voudrais...
Elles ces pénalités, attendez, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a des ministères qui actuellement, parce que dans leur cabinet n'ont pas suffisamment de femmes, payent
Pas dans leur cabinet, dans les nominations qui sont faites, les nominations de hauts fonctionnaires sont les dispositions de la loi Sauvadet.
C'est pas le ministre qui paye, c'est nous, c'est les contribuables en fait.
C'est une amende qui est mise au ministère, oui. Et c'est pour ça notamment, je crois que c'est important de le faire, mais je voudrais rappeler aussi qu'au-delà de cette question et de ces 4 ministères, l'ensemble de mes collègues sont vraiment mobilisés. Vous parliez de Sébastien Lecornu. Il était là au grand débat avec les femmes. Il fait partie des gens qui considèrent que c'est un sujet important, l'égalité femmes-hommes, et il pousse ce sujet.
Il ne la pratique pas dans son cabinet.
Je ne veux pas le stigmatiser particulièrement. Je ne sais pas si on peut lancer le débat sur l'attractivité des postes en cabinet ministériel. Ce ne sont pas honnêtement les postes qui font le plus rêver. Vous êtes corvéable à merci 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi-même, honnêtement, j'ai eu des difficultés à chaque fois. J'ai voulu me tenir à la parité, mais on sait très bien que quand on ouvre des postes, c'est pas forcément extrêmement attractif et on a une pénurie de candidatures, comme on l'a eu d'ailleurs au moment des législatives. On a dû aller chercher les femmes nous-mêmes, les identifier et aller leur proposer d'être candidates. Mais encore une fois, on en revient au sexisme de la société globalement.
Marie-Pierre.
Oui. L'autre sujet, c'est une des demandes des Gilets jaunes, c'est la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Et dans ces produits de première nécessité, il y a les protections hygiéniques. Leur taux de TVA est à 5,5%, mais le prix reste quand même très élevé. Est-ce que, oui ou non, il faut une TVA à taux zéro sur les produits hygiéniques, sachant qu'on parle même de précarité menstruelle? Beaucoup d'associations dénoncent ça.
Alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante et d'ailleurs qui a été abordée directement auprès du président de la République à Pessac lors du grand débat au féminin. Moi, ce que je voudrais vous dire sur ce sujet, c'est qu'on est en train de lancer une expérimentation avec, sur l'initiative d'une sénatrice qui s'appelle Patricia Schillinger, qui est sénatrice. Et avec elle, nous sommes en train de travailler au niveau d'une région à l'expérimentation de la mise à disposition gratuitement des produits hygiéniques pour les femmes qui sont notamment en situation de précarité diverses et variées, qu'il s'agisse d'étudiantes précaires ou de femmes qui sont dans des prisons ou de femmes SDF qui ont des difficultés.
Mais pour la TVA,
taux
zéro, est-ce que ça doit concerner ces produits ?
Sur la TVA en particulier, ça, je renvoie la question de fiscalité du début de l'émission. Je pense que ce sont des choses qui doivent sortir enfin un grand débat. Donc là,
mais
le débat est ouvert.
Est-ce que vous souhaitez, Marie Chappard, pour le coup
Moi, je souhaite faire en sorte que, un, les protections hygiéniques elles soient accessibles à toutes les femmes et que ça ne dépende pas de son niveau de revenu. Donc, y compris quand on est précaire ou qu'on est une femme à la rue, on doit pouvoir y accéder. Et deux, je souhaite qu'on travaille sur la question de la composition aussi de ces produits, qui est une question extrêmement difficile. Je crois que ce n'est pas uniquement un sujet de bobo écolo, comme parfois on le caricature dans la presse. Ça a été d'ailleurs abordé dans plusieurs grands débats.
Est-ce qu'il faut justement taper au portefeuille toutes les marques qui maintiennent le flou sur la composition de ces produits ?
Alors nous, ce que nous allons faire déjà dans les prochaines semaines, d'ici le mois de mai, c'est déjà convoquer les marques qui commercialisent les serviettes hygiéniques, les tampons et plus largement un certain nombre de produits d'hygiène intime pour les femmes, mais aussi pour les bébés. Il y a aussi une question sur les couches des bébés. Voilà, pour faire en sorte de leur demander de produire la composition précise et exacte de ces produits.
Autant de questions qui seront posées cette semaine aux invités d'Elisabeth Martichoux, qui recevra des femmes toute la semaine à 7h45. Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors l'autre sujet, évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est le cyberharcèlement. Justement, il y a un projet de loi contre le cyberharcèlement qui va être présenté à l'été. Et vous-même, vous avez annoncé vouloir allonger le délai de prescription pour les cas de cyberharcèlement. Aujourd'hui, il est actuellement de 6 ans. Est-ce que, enfin, justement, à combien est-ce que vous voulez l'allonger ?
Alors, d'abord, sur le cyberharcèlement, on a fait voter cet été une loi importante qui pénalise maintenant le cyberharcèlement dit en meute. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens qui pouvaient se retrancher derrière le fait de dire « Ah oui, mais moi, j'ai juste retweeté une insulte ou j'ai juste envoyé un tweet et il y en a 240 autres ». Maintenant, avec cette loi, même si vous avez juste retweeté, liké, partagé, envoyé un message, vous êtes condamné. Donc, c'est une avancée importante. Ce que nous allons faire là, dans le courant de l'année, sur la base du travail mené par une députée qui est Laetitia Avia, qui a mis un rapport, qui est le rapport Avia Tayeb Amelal, qui est un rapport intéressant qui nous permet de travailler sur le retrait des contenus haineux en ligne. Je crois qu'il est inadmissible à l'heure actuelle que les réseaux sociaux, que Twitter, d'autres, des plateformes, des forums, laissent en ligne plusieurs jours, parfois plusieurs mois, des contenus haineux, injurieux, harcelant, menaçant.
Vous, ils sont responsables, justement, aussi,
ils sont absolument responsables. Et je vois qu'il y a une inégalité. Par exemple, Facebook fait énormément de choses et de bonne volonté. Nous avons installé avec l'État des co-régulateurs pour Facebook. Il y a un prix harcèlement, anti-harcèlement avec une dotation importante qui a été menée. Facebook fait vraiment un travail. Twitter ne le fait pas du tout. Twitter est déplorable en la matière. Que vous receviez un message froid, cynique, disant que l'insulte ou l'injure antisémite, homophobe, sexiste ne contrevient pas aux règles d'utilisation, c'est absolument scandaleux. Les règles d'utilisation ne sont pas supérieures aux lois de la République française.
Christophe Jacubizine, pour une courte question.
Tout à l'heure, vous vous étonniez qu'on vous prête beaucoup d'ambition dans la presse. Je pense qu'on ne prête qu'au riche, justement. Alors, municipale parisienne, élection européenne, est-ce que vous serez dans l'une des deux compétitions ?
Je ne suis pas candidate à la candidature aux élections européennes. Je l'ai toujours dit. Il y a d'autres candidatures qui sont intéressantes.
Vous souhaitez que ce soit une femme qui...
Absolument. Et moi, j'ai été ravie que dans les débats...
Est-ce que ce sera une femme?
Je ne sais pas si ce sera une femme. Il y a une commission d'investiture qui est réunie sous la présence de Jean-Marc Borello. Mais moi, j'ai été ravie, pour tout vous dire, qu'on parle de beaucoup de mes collègues
Agnès
femmes.
Buzyn, par exemple.
On a parlé d'Agnès Buzyn, Nathalie Loiseau, de Brune Poirson. J'étais très heureuse qu'on reconnaisse les mérites et les qualités politiques des femmes de ce gouvernement.
Nathalie Loiseau qui a dit ici même qu'elle était pour la GPA éthique.
C'est votre cas?
Oui, c'est pas mon cas, mais je crois que la question de la GPA, elle est très sensible et c'est une question véritablement personnelle.
Est-ce que le gouvernement va voter sur la PMA d'ici à la fin de l'année? C'était prévu.
C'est un engagement du président de la République, donc je pense qu'il sera, il sera tenu, oui, absolument.
Il sera tenu.
Il sera tenu, comme tous les engagements du président de la République.
Et vous ne serez donc pas candidat au municipal en 2020?
Alors, au municipal en 2020, moi, je soutiens la candidature de Benjamin Griveaux à Paris.
Mais vous serez vous-même candidat dans le 14e, par exemple, ou pas?
Moi, je souhaite soutenir la candidature de Benjamin en étant candidate sur une liste. Ça ne veut pas forcément dire en portant une liste, parce que je peux aussi accompagner et soutenir une équipe qui va se positionner. Mon premier souhait, c'est continuer à m'occuper de la grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes au gouvernement.
Pour ou contre, une dernière question, Marie-Pierre Haddad, sur une publicité.
Oui, la publicité de la marque Le Temps des Cerises. On fait une publicité qui a été jugée sexiste par les internautes. Vous n'avez pas tweeté, d'habitude vous êtes très présente là-dessus. Est-ce que ça vous a choqué ou pas ?
trouve que cette publicité, elle est d'assez mauvais goût. Honnêtement, je suis myope, j'ai vu égalité de loin, je me suis rapprochée, j'ai pas bien vu le rapport avec l'égalité et des fesses dans un jean. Elle est de mauvais goût. Après, est-ce qu'elle est sexiste? Chacun peut se faire son avis là-dessus. Est-ce qu'on mettrait des fesses d'hommes? C'est ça la vraie question.
Il y en a aussi, visiblement. Chacun jugera. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. C'était
merci
votre premier
vous.
Grand jury. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.